Alors bonjour à chacun et à chacune. Donc comme ça a été dit, à partir de ce premier dimanche du mois, nous entrons dans une série d'enseignements sur le thème général « Tout le conseil de Dieu ». Donc le premier sujet que je vais traiter aujourd'hui, donc il y aura plusieurs orateurs, hein, mais c'est moi qui traite le premier sujet, donc j'ouvre le feu. Donc le premier sujet c'est « Jésus, Sauveur et Seigneur ». Alors pour cela, j'aimerais me baser sur un texte biblique qui se trouve dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11. Philippiens, chapitre 2, 9 à 11. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je vais surtout relever le titre Seigneur. Plus tard, je vais faire le lien avec le nom Sauveur, mais ce titre Seigneur se trouve ici dans ce texte, au verset 11. Alors ce titre Seigneur a été utilisé différemment dans l'histoire. Même aujourd'hui, on peut l'utiliser encore. Anthony Lewandowski, donc c'est le père des voitures autonomes, peut-être que les jeunes le savent, c'est lui qui a imaginé les voitures autonomes. Il a fondé une organisation religieuse, c'était en 2005, dont le nom, si je traduis en français, c'est « La Voix du Futur ». Et il a fondé cette organisation religieuse pour fonder un dieu fondé sur, pour créer plutôt un dieu fondé sur l'intelligence artificielle. Alors c'est quelque chose d'étonnant. Comment se fait-il qu'un homme, si je dirais un ingénieur qui a imaginé une telle technologie, puisse imaginer un dieu qu'on peut, une divinité fondée sur une intelligence artificielle? Et ça m'a interpellé. Mais une des raisons, en fait, c'est que il cherche une réponse à une crainte de se faire dépasser par les robots. Donc, pour pouvoir maîtriser cette peur, on cherche à créer une divinité. Bien que Dieu soit par définition incréé, l'homme imagine qu'on soit un Dieu qui leur corresponde quelque part. Et en fait, cette démarche-là se trouve déjà dans l'histoire. Parce que même dans le paganisme, on a aussi essayé d'imaginer quelque part une divinité suprême. Alors parfois c'est un être créé, parfois c'est un être spirituel qui ne s'appelle pas Dieu. Mais on peut voir cela. Et d'ailleurs, cette divinité suprême ici, élevée quelque part par cet ingénieur, peut être celle que et celle qui est utilisée dans le paganisme. Parce que ce titre, Seigneur, s'appliquait à une divinité suprême. Il y a aussi une autre signification. Parce que les empereurs revendiquaient aussi ce titre. Donc, dans ce sens, il est applicable sous diverses formes aux hommes d'État, aux personnes qui ont marqué l'histoire, je dirais même aux fondateurs des religions, aux personnes influentes dans l'économie, dans le milieu financier, dans toutes sortes de domaines politiques. Quelqu'un qui porte le titre de Seigneur, ou Lord même en anglais, hein, il y a le Seal, Lord. Donc il y a un titre qu'on donne à quelqu'un qui a une position élevée. Et en fait, ce titre, effectivement, correspond à ce statut élevé, à une autorité, à un pouvoir de décision. Et celui qui porte le titre Seigneur est une personne qui a plusieurs personnes à sa disposition et qui possède aussi plusieurs biens matériels. Alors, dans quel sens peut-on comprendre le titre Seigneur appliqué à Jésus dans ce texte? Parce qu'on voit qu'il y a la notion, la position de suprématie, de supériorité ici, revendiquée par les grands de ce monde. Alors, comment peut-on comprendre ce titre, l'application de ce titre à Jésus-Christ? On a déjà une indication dans ce qui est dit ici. dans l'approche de l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul reprend un texte qui se trouve dans Ésaïe, chapitre 45, versets 23 à 24, et il applique ce texte-là à Jésus-Christ. Ce texte parle de Dieu, et il applique ce texte à Jésus-Christ. Et je lis ici ce texte. « J'en ai fait le serment en jurant par moi-même, ma bouche a prononcé une parole juste qui est irrévocable. Devant moi, c'est Dieu qui parle ici, devant moi, tout genou ploiera et toute langue prêtera serment par mon nom. » Disant à mon sujet, c'est en l'Éternel seul que réside pour moi la justice et la force. À lui viendront honteux tous ceux qui contre lui s'étaient mis en colère. On voit déjà le parallélisme ici avec Jésus Seigneur et Dieu qui mérite notre adoration, qui mérite notre vénération. Et dans ce texte, il y a deux questions que j'aimerais relever qui permettent justement de voir comment peut-on comprendre, en plus de ce texte dans Ésaïe, comment peut-on comprendre l'appellation Seigneur. La première question, c'est comment Dieu a-t-il exalté Jésus-Christ, qu'on voit ici. D'ailleurs, à partir du verset 9, c'est écrit, c'est pourquoi Dieu l'a élevé. Donc il y a une raison, juste avant ce passage. Et cette raison se trouve justement dans le verset 6 à 8. Et je lis ce verset. « Lui qui était dans de conditions divines ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. » Oui, la mort sur la croix. Donc, juste avant cette élévation, il y a cet abaissement de Jésus-Christ. Un abaissement en deux étapes. La première étape se trouve au verset 7. Donc, il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable à nous. Première étape. Mais il est encore allé plus loin. Au verset 7. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Jésus est allé jusqu'à la mort. Lui qui est Dieu, qui est venu dans ce monde, il est allé jusqu'à la mort pour nous. Il s'est abaissé. Et comment Dieu a répondu à cette obéissance de Jésus-Christ qui l'a amené à s'abaisser jusqu'à la mort sur la croix? Il l'a répondu de deux manières dans ce texte. Il l'a élevé à la plus haute place, comme c'est écrit ici au verset 9, à la plus haute place. La première manière. Deuxième manière, c'est qu'il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est quelque chose de merveilleux pour moi de voir cette réponse à un mouvement descendant, à un mouvement ascendant. Celui qui est descendu est venu nous sauver, et celui-là que Dieu a élevé. C'est merveilleux. Et quand on essaie d'analyser un peu ce que l'apôtre Paul dit ici, par cette élévation, en une étape, hein, là c'est vraiment cette élévation, on voit tout ce qui se passe après la mort de Jésus-Christ. Il est ressuscité, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu. Dans ce mot élévation, on voit toute cette réalité que l'apôtre Paul est en train de développer ici, par ce mot élévation. Cela signifie que Jésus est différent de tous les grands de ce monde. Rien que par son abaissement, rien. Celui qui n'exige pas, mais celui qui se donne. Celui qui ne force pas, mais celui qui invite. L'attitude de Jésus qui vient jusqu'à nous. L'abaissement, l'humilité, qui n'a pas d'égal. Quand on voit tous les grands de ce monde. Et on voit aussi cette élévation de Jésus-Christ. Résurrection, élévation, résurrection, le fait, son ascension et aussi le fait qu'il siège à la droite de Dieu. Jésus est l'unique Seigneur qui est digne d'être appelé Seigneur. Par ailleurs, d'autres textes, d'ailleurs dans le chant qu'on a fait tout à l'heure, on a parlé aussi du Seigneur de l'univers. D'autres textes attestent aussi que Jésus est Seigneur. Il est le Seigneur de la création. Il est le Seigneur de tous les chrétiens. Il est le Seigneur de l'Église. Il est le Seigneur des vivants et les morts. Donc les morts ne peuvent pas se réfugier derrière la mort pour dire « Non, il n'a pas de pouvoir sur moi. » Et même les anges proclament la seigneurie de Jésus-Christ. Donc, Jésus est Seigneur et il est digne d'être le Seigneur de notre vie. Il est Seigneur à cause de ce qu'il est, mais il est aussi Seigneur à cause de ce qu'il a fait. À cause de ce qu'il a fait, j'ai parlé tout à l'heure de cet abaissement de Jésus-Christ. Et pourquoi il est venu jusqu'à nous? C'est pour nous rejoindre, pour vivre parmi nous, pour vivre dans les mêmes conditions que la nôtre, et pour nous prendre, pour nous réconcilier avec Dieu. Ce qui me permet d'introduire la deuxième question, qui nous invite aussi à mieux comprendre et à mieux vivre cette appellation qu'on attribue au Seigneur, à Jésus comme Seigneur. Comment tout homme l'exaltera-t-il? De nouveau, dans ce même texte, on a la réponse au verset 10 à 11. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, comment tout homme l'exaltera-t-il? Ici, c'est au futur. C'est la reconnaissance de Jésus comme Seigneur. Alors tout le monde ne le reconnaît pas comme son Seigneur. Mais cela ne change rien au fait qu'il est Seigneur. Mais tous auront un jour à le reconnaître comme tel. Tous se soumettront à lui, volontairement ou non, au jour du jugement. Avec ce mot-là, tout genou fléchira devant lui, verset 10, et toute langue confessera sa seigneurie, verset 11. Cela implique que tout le monde va déclarer un jour que Jésus est Seigneur. Il y a ceux qui l'ont voulu, il y a ceux qui sont obligés de le faire. Même ceux qui se tournent vers d'autres seigneurs seront obligés de reconnaître Jésus comme Seigneur plus tard. Mais aujourd'hui, nous avons le privilège de le faire librement, volontairement. Alors je ne vous connais pas tous, mais si quelques-uns parmi vous ne reconnaissent pas ce Jésus que Dieu a élevé, ce Jésus qui est déclaré Seigneur et au-dessus de tout, qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, si tu ne reconnais pas encore ce Seigneur, tu peux faire le pas aujourd'hui, avant que ça soit trop tard. Avant que tu sois obligé de le faire. Et là, ce sera trop tard. Mais aujourd'hui, tu peux le faire. Et ça me permet d'introduire le fait que nous avons ce privilège de le reconnaître librement. Et il y a un lien ici entre cette élévation de Jésus-Christ, le fait que Jésus soit ressuscité, il est monté au ciel, et il siège à la droite de Dieu. Il y a un lien entre cette élévation et la manière dont comment Dieu nous a sauvés. Comment Dieu nous a fait passer de la mort à la vie. Et cela montre que Jésus est à la fois le Seigneur, mais aussi le Sauveur, parce qu'il nous prend avec lui et il nous donne cette vie qui vient de Dieu. Et je vais me baser sur de nouveau, un autre texte de l'apôtre Paul. Donc ici, on reste toujours dans la compréhension de l'apôtre Paul. Je vais me baser dans le texte là de Éphésiens chapitre 2. Dans Éphésiens chapitre 2, on peut distinguer aussi deux points. Il a été tout d'abord parlé de la condition de l'homme sans Christ. Que toute personne sans Christ dans leur vie est une personne qui vit, bien sûr, physiquement, mais qui est mort spirituellement. Quelqu'un qui est mort spirituellement ne peut rien faire au niveau spirituel. Mais il faut qu'il y ait l'intervention de Dieu pour que ce mort spirituel ait une vie spirituelle. D'où le lien entre le fait que Jésus est venu mourir à la croix et ressusciter, et par rapport au fait que nous qui sommes morts spirituellement puissent vivre aussi spirituellement par l'intervention de Dieu dans notre vie, grâce à Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3, il est écrit « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suivez les chefs de puissances spirituelles mauvaises. » Entre guillemets, nous sommes libres. Non. Il y a un mouvement là qui est entraîné, qui entraîne ce monde avec celui qui influence aussi ce mouvement. Donc le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit dans les hommes rebelles à Dieu, dans le monde. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon les mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature voués à la colère de Dieu, comme le reste des hommes. Nous étions dans ce mouvement-là, en étant morts spirituellement. Mis à cette condition de l'homme avec Christ, dans la suite de ce texte. Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, donc versets 4 à 7, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ, c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns avec les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. C'est merveilleux. La destinée de Jésus-Christ est la destinée de tout chrétien. Et là où Jésus se trouve, ben, on sera tous. Donc, la vie de tout chrétien est orienté vers cette exaltation de Jésus-Christ. Non pas l'exaltation de soi, non pas l'exaltation d'une divinité quelconque, non pas l'exaltation d'un bien matériel quelconque, mais seule l'exaltation du Seigneur. Parce que nous avons la même destinée, nous avons le même lien, parce que c'est cette vie que nous avons en ce moment, en Jésus-Christ, où nous avons reconnu Jésus, et la même que Dieu a déployée aussi pour ressusciter Jésus-Christ. Donc tous ceux qui ont reconnu Jésus comme son sauveur et Seigneur personnel sont conduits constamment, je dis bien constamment, à exalter Jésus-Christ, à glorifier Jésus-Christ. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas comment glorifier Dieu. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas comment exalter Jésus, parce que ça fait partie de l'ADN de la vie spirituelle. D'adorer le Seigneur, de glorifier le Seigneur, pas seulement par nos bouches, mais aussi par nos actes, par notre attitude, par nos pensées. Tout ce que nous sommes, tout notre être se tourne vers cette gloire de Jésus-Christ qui nous a sauvés, pour notre bien-être aussi, mais aussi pour la gloire de Dieu. Alors Jésus-Christ mérite la première place. Il mérite la première place dans la vie d'un chrétien et dans la vie même de l'Église. Et sur le plan communautaire, je reste dans ce qui est dit dans ce texte, au début de ce passage donc de Philippiens chapitre 2, le verset 2 à 5. Parce qu'il y a une manière de montrer que Jésus a la première place dans cette Église et de vivre ce qui est dit ici. D'ailleurs, c'est pour ça que l'apôtre Paul montre l'exemple de Jésus-Christ en constatant la réalité vécu par l'Église ici à Philippe. Et il y a cette exhortation de l'apôtre Paul à cette Église, versets 2 à 5. « Rendez donc ma joie complète, tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme les plus importants que vous-même et que chacun de vous regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. » Donc Jésus-Christ est le modèle. Et quand on est uni à Jésus-Christ, qui a vécu cet abaissement-là, on peut aussi vivre cela dans l'Église. Vivre cet abaissement dans l'Église. Montrer que Jésus a la première place. Et sur le plan personnel, il se peut que divers domaines de la vie d'un chrétien ne soient pas soumis à l'autorité du Seigneur. On peut se dire, mais ça, je veux bien te donner, Seigneur, ce domaine-là. Mais celui-là, non. Je garde pour moi. Je garde ça sous mon autorité. Je garde ça, je permets même à l'autorité de l'ennemi, l'ennemi d'agir sur ce point-là, dans ce domaine-là. Mais le Seigneur veut que nous lui donnons tout. Tous les domaines. Qu'il soit le Seigneur de tout. Alors y a-t-il des domaines où je ne permets pas que le Seigneur ait l'autorité, ait le contrôle? Dans ma vie personnelle? Dans mon mariage? Dans ma famille? Dans ma relation avec mes voisins, avec mes amis? Par rapport à mes biens? Par rapport à l'argent? Par rapport aux études? À la profession? Par rapport aux loisirs même? Est-ce que le Seigneur occupe la première place? Alors c'est quoi le conseil de Dieu? En tout cas, un des conseils, c'est reconnaître Jésus comme Seigneur. Jésus est Seigneur et il est digne d'être Seigneur à cause de ce qu'il est et de ce qu'il a fait. Et il est aussi Sauveur parce qu'en venant jusqu'à nous, il nous offre gratuitement le salut pour que nous soyons réconciliés avec Dieu et que nous soyons avec lui pour toujours. Mais c'est parce que Jésus est Seigneur que nous avons la responsabilité de le reconnaître comme tel dans notre vie quotidienne, pour notre bien et pour la gloire de Dieu. Et pour résumer tout ce que je viens de partager tout à l'heure, si le Seigneur n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Amen.